tear, I thank him. You got me feeling happy for the first time in years. You got me feeling happy for the first time. Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides du voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Et voilà, nous voilà de retour après 2 mois d'absence environ, c'est le retour de Qui ou Quoi sur Radio Dio. Je vais rappeler, ou plutôt expliciter le concept de l'émission pour les chanceux qui viendraient à nous découvrir ce soir, et pour nos fidèles auditeurs qui ont peut-être oublié de quoi ils retournent, et qui écoutent encore aujourd'hui par pur réflexe pavlovien. Dans Qui ou Quoi sur Radio Dio, on s'ingénie à vous parler de livres sous toutes ses formes. Comme j'ai dit en intro, des romans, des BD, des documentaires. Et au final, après une première saison, en fait là c'est la seconde, on peut faire un petit bilan. Comme on me l'a judicieusement fait remarquer cet été, je parle quand même beaucoup de livres sur la musique, de BD et un petit peu de documentaires. Donc il nous reste quand même pas mal de choses à aborder pour cette saison. Au final, ce petit bilan s'explique assez facilement. C'est que jusqu'à maintenant, qui ou quoi, c'était surtout moi, donc je m'appelle Axel, et que ce que je lis le plus, ce sont les livres de musique, les BD et quelques documentaires. Alors, même si l'année dernière, on a quand même parlé d'un peu autre chose, et les fans de l'émission, je sais qu'il y en a, se souviennent que l'année dernière, donc, nous avons eu quelques fameux invités, parmi lesquels l'IMAX Édition, la Bédothèque, et même quelques intervenants de choix et de haute volée. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'année dernière et tout ce que nous allons enregistrer cette année sur le site de Radio Dio. N'empêche que, fort de ce constat, en fait, je crois pas que la ligne éditoriale, cette année, va changer beaucoup. J'ai bien sûr très envie de parler de littérature, mais ce sera jamais le roman que je vais prendre en premier dans la pile de livres à lire pour l'émission Qui ou Quoi. Mais bon, à force de remarques, et surtout fort d'une réflexion intense autour du contenu, il y aura quand même des changements cette année. Tout d'abord, le cercle va s'élargir, et une semaine sur deux, Vincent, le Christophe André de la critique BD stéphanoise, viendra discuter avec moi de BD. Et puis, je l'espère, le cercle va s'ouvrir petit à petit, et l'émission va un peu évoluer au cours de cette nouvelle année. Une chose est sûre, j'ai décidé de formaliser un peu plus mon rapport à la BD, et donc les BD dont nous allons parler dans cette émission, histoire, on va en fait toutes les répertorier dans la BD Tech idéale de qui ou quoi. Et puis j'espère pouvoir donc vous parler plus régulièrement de littérature de genre, les polars et autres SF, et puis ouais, vraiment la littérature tout court. Bon, tout ça reste quand même un petit peu flou, il faut bien l'avouer, mais bon, de toute façon, il faut bien recommencer. Donc c'est ce soir, qui ou quoi sur Radio Dio. Bienvenue dans la nouvelle saison.
La la la.
De retour dans Qui ou Quoi, c'était Ventre de Biche pour la première pause musicale de l'émission, avec le bien nommé J'ai mal à la tête. Pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, vous n'avez rien raté, on recommence juste à reparler de bouquins sur Radio Duo dans cette nouvelle saison de Qui ou Quoi. Le premier dont on va parler dans cette nouvelle saison, c'est le livre « Prenez soin de vous » de Sophie Kahl, aux éditions Actes Sud. Je vais tout de suite commencer par vous situer Sophie Kahl pour ceux qui ne connaissent pas. Sophie Kahl, c'est une artiste française, et ce qui la caractérise le plus, c'est que son travail d'artiste consiste à faire de sa vie, et notamment des moments les plus intimes, une œuvre. Bon, ça c'est une citation, je l'ai piqué sur Wikipédia, mais bon, c'est quand même tout à fait ça. Donc pourquoi se priver ? Et en plus, c'est libre de droit. En fait, Sophie Kahl passe son temps à se mettre en scène et à conceptualiser ce qui lui arrive. Et il faut bien lui accorder une chose, c'est qu'il lui arrive des trucs. Ces choses du quotidien un peu fofolles qu'on a tous connues au moins une fois, des coïncidences comme croiser quelqu'un qu'on connaît super bien mais qu'on n'a pas vu depuis des années, à l'autre bout du monde, des trucs un peu comme ça. Alors elle, bien sûr, elle les provoque un peu ces situations. C'est la base de son travail. Et parmi ses œuvres, moi, je trouve qu'il y en a pas mal d'assez fortes. Et même quand c'est un petit peu nul, eh ben c'est quand même un peu rigolo. Désolé d'utiliser ce vocabulaire un peu désuet pour situer le travail de Sophie Kahl, mais comme je ne suis pas critique ni historien d'art, c'est vraiment ceux qui me viennent quand je pense à elle. Je ne suis bien sûr pas familier de toute son œuvre, mais donc, avant de parler d'un de ses livres, je peux vous décrire certaines de ses œuvres qui m'ont marqué. Sophie Kahl, moi je l'ai connue grâce à Paul Auster, l'écrivain américain qui est un peu le spécialiste des coïncidences un peu fofolles, mais en littérature lui. Dans un de ses livres, Léviathan, il met en scène Sophie Kahl justement. Et plus tard, elle s'est à son tour inspirée de livres pour créer des œuvres. En particulier, ce qui m'avait marqué la première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'est qu'elle avait construit des menus pour tous les jours de la semaine basés sur une couleur, lundi jaune, mardi orange, etc. Bon, aujourd'hui, un truc comme ça, ce serait juste une épreuve de Top Chef, mais à l'époque, il y avait une mise en abîme de fou, et c'était joli et même poétique. Bon, là, quand je vous le décris, c'est sorti de son contexte, mais c'est vraiment ce qui me l'a fait connaître et qui me l'a fait apprécier, et ensuite, j'ai découvert d'autres œuvres. Dans les plus marquantes, il y a une série de photos d'elle que je trouve assez forte. Elle a engagé des détectives privés pour la suivre et elle a exposé ensuite les clichés qu'ils ont pris d'elle à son insu. Mise en scène du quotidien, voyeurisme, etc. etc. Mais en fait, c'est souvent l'histoire autour de l'œuvre, autour de ce qu'elle produit qui est importante. D'ailleurs, au niveau de la forme, Sophie Kahl marie souvent photos et textes explicatifs. Si je dis ça, c'est parce que ça a une importance pour le livre dont je vais parler plus tard. Pour moi, le plus fort de son travail, et je vais finir là-dessus pour cette espèce de présentation de Sophie Kahl, c'est une série de photos qu'elle a appelée « Les aveugles », dans laquelle elle propose des portraits de personnes aveugles à qui elle a posé la question « Qu'est-ce que c'est le beau pour vous ?» Donc chaque réponse est présentée sous forme de triptyque, un portrait photo de la personne à qui on a posé la question, le texte de la réponse et une photo de ce qui correspond à la réponse. Et donc, quand on le voit sous forme d'exposition, on avance dans l'exposition en prenant de plus en plus la mesure de ce que c'est que d'être aveugle. Nous qui pouvons voir ces visages, qui pouvons lire les réponses et apprécier le beau ou non des réponses. En fait, avoir un avis et puis au final, voir tout court, quoi. Et le dernier portrait de cette exposition, c'est une personne qui répond, et là je cite, « Le beau, j'en ai fait mon deuil. J'ai pas besoin de la beauté, je n'ai pas besoin d'image dans le cerveau. Comme je ne peux pas apprécier la beauté, je l'ai toujours fui. » Et là où toutes les autres personnes dans l'exposition avaient la photo qui correspondait à leur réponse, il n'y a rien. Rideau, tout est dit, et c'est vraiment trop fort. Mais revenons à nos moutons. Donc, le livre « Prenons soin de vous » de Sophie Kahl, paru chez Actes Sud. Alors ce livre, c'est ce qu'on appelle un beau livre, un grand format, avec une grosse couverture cartonnée et tout ça. Et c'est le catalogue, enfin en quelque sorte le catalogue d'une installation que Sophie Kahl a faite avec Daniel Buren à la Biennale d'Art de Venise 2007. Le contexte, comme dans toute l'œuvre de Sophie Kahl, est le suivant. Sophie Kahl se fait larguer par une lettre. Enfin, par un homme qui lui envoie une lettre. Et c'est là que je vous lis ce qui est écrit derrière le livre et qui était sûrement en introduction à l'installation à Venise. J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots « Prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre et j'ai demandé à 107 femmes, dont une a plumes et deux en bois, choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer, l'épuiser, comprendre pour moi, parler à ma place, une façon de prendre le temps de rompre, à mon rythme, de prendre soin de moi. Alors, dans les 107 femmes sollicitées, il y a une médiatrice familiale, une chercheuse en lexicométrie, une correctrice, une dessinatrice, une journaliste, un juge, une normalienne, une sexologue, une psychologue, une publicitaire, etc. Une exégète talmudique, une ado, etc. La lettre est présentée au tout début du livre, la fameuse lettre de rupture, et elle est hallucinante. Je ne vais pas la lire ici, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment hallucinante. Personnellement, je n'arrive même pas à en dire autre chose. J'aimerais vraiment ne jamais recevoir une telle lettre. Enfin bon. Ensuite, le livre reprend chacune des réactions des 107 femmes. Elles sont prises en photo, un portrait des personnes en train de lire la lettre. Et ensuite, l'artiste reproduit leurs réactions, la fameuse analyse. Que ce soit un texte, un livre, une lettre manuscrite, il y a aussi des DVD, etc., etc. Ce sont d'ailleurs souvent des femmes connues ou des sommités dans leur domaine qui répondent. Il y a des nouvelles de Marie Desplechin, il y a une nouvelle de Marie Desplechin. Le langage professionnel des réactions est très important dans notre façon de le lire et de les intégrer. Parce que, par exemple, dans le livre, la première réaction, c'est une, je crois que c'est la chercheuse en lexicométrie, qui présente son analyse avec son vocabulaire professionnel. Et cette analyse est d'une froideur terrible. Alors qu'en vrai, après juste avoir lu la lettre de rupture, ce qu'on voudrait, c'est de la bienveillance, un câlin et pas du jargon. Mais en fait, c'est pas le propos. En fait, la force de ce livre et de cette œuvre de Sophie Kahl, pour moi, c'est de nous plonger dans la peau de Sophie Kahl. La lettre de départ, elle est impersonnelle, elle est dure. Et en fait, on ne peut que la prendre pour soi, parce que justement, le côté impersonnel. On s'est tous fait larguer un jour, donc elle a un écho forcément. Et puis, se plonger dans la réaction des femmes que l'artiste a sollicitées nous permet ensuite de relativiser, d'avancer, de voir différemment cette rupture, de voir différemment la personne qu'on ne connaît pas, mais qui est derrière le truc, etc., etc. C'est assez hallucinant, et en fait, à force de lire ces réactions, en fait, on expérimente proprement le deuil de la relation comme on expérimente en fait la rupture en ayant lu la lettre. En lisant tout le reste, c'est comme si vraiment on vivait ce qu'avait vécu Sophie Kahl. C'est très 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 fort, une espèce de condensé de vie en fait. Je vais m'arrêter là pour en fait ce livre et je vais finir par trois petites remarques. Il y a une dimension féminine et féministe à l'œuvre, mais j'avoue que j'arrive pas trop à l'analyser, donc je vais pas en parler, forcément. Le livre, il est très 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 dense. On peut pas le lire d'une traite parce que sans cette réaction, c'est énorme. Il y a des DVD à regarder, il y a des livres à lire, il y a des lettres illisibles, il y a toute une partie esthétique, etc. Mais c'est un livre qui encourage à y revenir et en fait qui accompagne vraiment, vraiment pendant longtemps. Et le dernier point, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout un critique d'art et j'ai un peu de mal à replacer ce livre déjà dans l'œuvre de Sophie Calle parce que je ne la connais pas en entier et puis dans l'histoire de l'art carrément. Donc je peux qu'exprimer mon ressenti perso. Et je me répète, mais ce livre touche au cœur. Vraiment, lisez-le. C'était Rendez-vous avec le morceau Hiroshima. Et on continue. Vous êtes toujours sur Radio Dio et vous écoutez Qui ou Quoi. Dernière séquence ce soir, dernier livre dont je vais parler. Et comme on va essayer de le faire à chaque émission, ouvrons donc une page de la BD Tech idéale de Qui ou Quoi. On commence fort cette BD Tech avec la dernière BD parue en France d'un auteur japonais, Shi Sakobe, c'est le nom de la BD, de Minetaro Michizuki, auteur dont je vous avais déjà parlé ici même avec son manga Dragonhead. Petit retour sur Dragonhead, qui l'a fait connaître au public français et qui raconte donc une histoire absolument horrible et terriblement anxiogène d'adolescents qui tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique ravagé par les catastrophes naturelles et dans lequel, les humains sont tous devenus fous de peur. Bref, une balade de santé. Je me répète, mais pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à écouter l'émission de l'année dernière dans laquelle j'en parle et qui est disponible en podcast sur leur site de Radio Audio. Eh bien, Shisakobe est à des kilomètres, mais alors des kilomètres de tout ça. Tant et si bien qu'on pourrait presque se demander si c'est le même auteur. Mais j'arrête tout de suite le suspense, c'est bien le même, et force m'est de constater que nous avons affaire là à un très grand mangaka, et plus largement un très très grand auteur de bande dessinée. Shisakobe, donc, raconte une histoire simple. Pas violente, pas flippante, pas extrême, mais largement aussi forte. L'histoire, c'est celle de Shigeji, dont les parents, charpentiers de leur état et à la tête d'une entreprise familiale, viennent de mourir dans l'incendie de leur maison et de tout le quartier. Shigeji doit réaliser ce qu'il était toujours appelé à faire, c'est-à-dire reprendre l'entreprise familiale, comme l'a fait son père avant lui et son grand-père, etc., etc. Contraint de s'emparer de ce rôle, il se retrouve obligé d'embaucher une amie d'enfance à lui, qui s'appelle Ritsu, pour s'occuper des choses de la maison. Et cette Ritsu demande à Shigeji de prendre en plus, sous leur toit, 5 orphelins qui se retrouvent à la rue suite au fameux incendie qui a également détruit l'orphelinat du quartier. Alors, même s'il y a un traumatisme au départ, Shisakobe chronique le quotidien de tous ces personnages et nous raconte en fait leur passage à l'âge adulte. Un récit ô combien universel qui touche forcément. Le tout fait avec une finesse et une justesse que j'ai un peu de mal à retranscrire avec des mots. Comme d'habitude, parler d'un livre sans trop raconter l'histoire, c'est bien difficile. Je vais donc essayer d'aborder les différents éléments qui font de cette BD une œuvre aussi forte, sans trop en raconter. Le dessin tout d'abord. Ceux qui connaissent Dragonhead ne me contrediront pas, le dessin de Minetaro Mochizuki est assez chargé. Or, c'est un auteur qui, apparemment, n'aime pas stagner et qui préfère évoluer. Il le dit d'ailleurs dans une interview fort intéressante de l'excellent site de critique BD du 9.org. Il y explique pourquoi il choisit aujourd'hui de dessiner dans une épure la plus poussée possible. Et c'est vrai qu'on est presque dans un dessin de manga proche de la ligne claire. Comme Tintin, à peu près, pour ceux qui ne voient pas. Bon, je pousse un peu en disant ça, sûrement que les spécialistes vont crier. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il pousse l'épure à un très haut niveau. Shigeji, donc le personnage principal, revient d'un long voyage entrepris après ses études pour découvrir le monde. Et lorsqu'il revient, il a une énorme barbe et des cheveux longs qui lui cachent littéralement tout le visage. Impossible de voir une seule émotion sur son visage. Et pourtant, sa parole, sa présence et ses actes en disent long sur tout ce qui se passe dans sa tête. En fait, si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que toutes les émotions passent par la mise en scène. Faut savoir aussi que Shisakobe, c'est une adaptation d'un roman japonais de Shuguro Yamamoto, qui est apparemment un auteur connu de romans populaires au Japon. Il a vécu au début du 20e siècle. Je ne connais absolument pas cet auteur, mais de ce que j'en ai lu sur internet, merci Wikipédia encore une fois, il a écrit beaucoup, et ce que j'en ai retenu, c'est que Akira Kurosawa en a adapté au moins 2 de ses livres, dont il a tiré 2 films, Barberousse et Sanjuro, ce qui fait qu'au final, Minetaro Mochizuki s'inscrit en fait, dans une espèce de veine cinématographique japonaise, mais en BD. Il le dit d'ailleurs dans l'interview dont j'ai parlé un petit peu avant. Et on en revient donc à cette mise en scène. Et en fait, quelque part, il n'y a pas besoin de savoir tout ça pour le voir quand on lit la BD. Le découpage, le rythme, l'épure des cases, le cadrage, tout ça inspire une ambiance contemplative propre au cinéma. We'll be right back. Et d'ailleurs, à bien y réfléchir, on n'est pas vraiment dans une veine de Kurosawa, plutôt dans une veine proche d'un Ozu, pour ceux qui connaissent, dont je ne fais d'ailleurs pas partie, donc c'est un peu n'importe quoi ce que je dis, vu que je n'ai jamais vu. Mais en tout cas, c'est vrai que comme je ne connais pas, mais c'est l'image que j'ai de ces films, des films de Ozu. Et dans cette fameuse interview du site de duneuf.org, le journaliste lui pose la question de l'influence de Ozu dans cette BD. Donc c'est qu'en fait, au final, mon instinct, et puis en fait que j'étais pas si loin. Donc ça valide ma remarque, et ça parlera peut-être à certains d'entre vous qui pourraient avoir envie de vous plonger dans cette BD. Shisakobe en raconte long également sur la société japonaise. Le livre dont il est adapté se passe au départ au Moyen-Âge, ou en tout cas ce qui ressemble au Japon. Sauf que Minetaro Mochizuki le transpose à notre époque, pour mettre en avant en fait l'universalisme du propos dont j'ai parlé tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a beau se dire que c'est au Japon, que nos sociétés sont quand même bien différentes, il faut savoir que la France c'est le second pays en termes de vente de manga au monde. Alors comment expliquer cet engouement et cet intérêt, si ce n'est en concluant qu'il y a sûrement quelque chose de la société japonaise qui est en résonance avec la nôtre. Bien sûr, la société japonaise est aliénante, contraignante à bien des égards, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit y avoir bien des éléments que l'on retrouve dans la nôtre pour qu'on lise à ce point autant de mangas, et pour qu'un manga comme Shisakobe nous parle autant. Bien sûr, on ne salue pas les bus avant de partir en voyage. Nous n'avons pas eu de samouraï ou de kamikaze, mais ça donne quand même à réfléchir. Toujours est-il que d'une manière plus légère et bien plus superficielle, la description du quotidien japonais, avec ses bento et autres traditions d'honneur et ses morts, ou la hiérarchie, le respect de la hiérarchie professionnelle, etc., dans cette BD vaut bien un voyage. Arrive le dernier élément dont je voulais vous parler ce soir à propos de Shisakobe, mais je suis sûr qu'il y a bien d'autres aspects. Ah non ! C'était le dernier élément dont je voulais vous parler ce soir à propos de Shisakobe. Mais je suis sûr qu'il y a bien d'autres aspects à aborder sur ce manga, tant il est riche. Et comme d'habitude, je vais sûrement me dire, une fois que l'émission est passée, que je serais passé complètement à côté de ce que je voulais vraiment dire, mais c'est pas grave. Résumons-nous, il faut lire Shisakobe de Minetaro Mochizuki, au lézard noir. Donc, je viens de me tromper de morceau pour lancer le générique de fin. Donc, on recommence tout. Et voilà, cette fois c'est bon, on est reparti. Il faut quand même que je fasse quelques pains pour l'émission de reprise. Donc voilà, qui ou quoi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai parlé de deux livres, contrairement à d'habitude où des fois j'en parle de trois, mais j'ai un peu raconté ma vie avant. Le premier, c'était « Prenez soin de vous » de Sophie Kahl aux éditions Actes Sud. Et le second, c'est le manga « Shisakobe » de Minetaro Mochizuki au lézard noir. Donc c'est fini pour l'émission de ce soir. On se retrouve dans deux semaines à la même heure. Avec Vincent, et on parlera sûrement de bande dessinée. Et puis peut-être d'un peu autre chose, on verra. Mais en tout cas, c'est dans deux semaines, sur la même fréquence, à la même heure. À dans deux semaines. Better soak in our sweat. We hit a world wide and we're searching for it.